Le national d'abord. Hier, l'Assemblée nationale a voté pour la proposition de loi sur le secret des affaires à 46 voix contre 20. Cette loi, destinée à protéger les entreprises contre l'espionnage industriel, économique et contre la concurrence déloyale, avait suscité de vives protestations de la part des médias.
En effet, dans une tribune publiée la semaine dernière, un collectif de journalistes avait exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de cette loi.
Celle-ci, sous couvert de protéger les entreprises, interdirait également des révélations journalistiques sur les potentiels agissements de ces mêmes entreprises. Des scandales comme Mediator, le bisphénol A ou les Panama Papers pourraient ainsi ne plus voir le jour et les citoyens n'en seraient plus informés. Ce serait une attaque à la liberté d'informer, les intérêts d'une entreprise entrant parfois en contradiction avec l'intérêt général. Le Sénat débattra du projet de loi le 18 avril.
On est en grève depuis...
Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnel aujourd'hui, sur décision des juges d'instruction. Après sa mise en examen la semaine passée pour l'affaire libyenne, c'est désormais pour l'affaire de corruption à la Cour de cassation, pour des faits de corruption et de trafic d'influence, qu'il est mis en cause. Cette affaire, révélée en 2014 et pour laquelle il avait été placé sur écoute, avait révélé des agissements douteux de l'ancien président avec son avocat dans le but d'éviter un procès risqué juste avant la campagne présidentielle de 2007. Il s'agissait pour eux d'obtenir des informations privilégiées sur une autre enquête alors en cours, l'affaire Bettencourt, et de tirer avantage de leur lien avec le haut magistrat Gilbert Azibert. Celui-ci avait obtenu en retour le soutien de Sarkozy pour obtenir un poste à Monaco. Que ne ferait-on pas pour un peu de soleil ?
Pour résumer, la semaine dernière, il était entendu sur l'affaire libyenne, et là, il retourne en correctionnel pour l'affaire dite Azibert, survenue alors qu'il tentait d'échapper à l'affaire Bettencourt.
Beaucoup de casseroles pour l'ancien président, affaire au pluriel à suivre. Ce soir, les membres du PS sont supposés retourner aux urnes pour élire le futur premier secrétaire du parti, Olivier Faure, a priori, puisqu'il est le seul candidat à être resté dans la course après que Stéphane Le Foll s'est retiré le lendemain du premier scrutin. Faure garde l'espoir d'une participation correcte au vote qui donnerait une assise à sa volonté de faire renaître le parti, mais pas sûr que les électeurs se déplacent, sachant qu'au premier tour déjà, moins d'un tiers des votants s'était exprimé.
Le futur premier secrétaire a déjà au moins une idée pour relancer le PS sinistré, et cette idée, c'est d'adopter un chat pour jouer les mascottes rue Solferino.
Un chat, ça a 9 vies, c'est agile, et c'est vrai qu'il va falloir en faire des acrobaties pour que le PS retombe sur ses pattes. Les membres du parti devront également bientôt élire leurs représentants régionaux, et là aussi, le suspense ne sera pas très important, sachant que dans 70% des fédérations, un seul candidat se présente. Olivier Faure, quant à lui, sera officiellement investi premier secrétaire les 7 et 8 avril prochains. À l'international maintenant, le Botswana donne encore l'exemple.
Oui, son chef de l'État, Yann Kama, va démissionner volontairement à 18 mois de la fin de son mandat pour se conformer à la lettre de la Constitution. Une mise en retrait justifiée par la nécessité de se conformer donc à cette Constitution qui limite à 10 ans la durée au pouvoir. Or, Yann Kama, 65 ans, avait été intronisé le 1er avril 2008 dans la foulée du départ de son prédécesseur qui déjà entendait poursuivre à la lettre la loi fondamentale. Au pouvoir, il a su tirer au mieux parti des forces de cet État enclavé, grand comme la France et peuplé de 2,2 millions d'habitants, et notamment tirer parti du commerce des diamants, du nickel et de la viande, déjouant ainsi la malédiction des pays riches en ressources. Il a surtout renforcé l'image de bon élève du Botswana, s'impliquant dans la défense de la démocratie et les luttes écologiques. Le pays fut ainsi un critique acerbe de Robert Mugabe, l'ex-président du Zimbabwe. Le gouvernement ne manque jamais non plus de mettre en avant ses performances pour contenir la corruption, ce qui lui vaut d'être l'État d'Afrique le mieux classé par l'ONG Transparence Internationale, 34e, loin devant l'Espagne ou l'Italie. L'ancien pilote militaire, direct, souriant et réputé pour son contact facile, part donc au sommet de sa popularité.
Ce bilan dont le président s'enorgueillit dans une tournée d'adieu qu'il effectue cette semaine est cependant loin d'être parfait.
La croissance économique touchée par la chute des cours des matières premières se tasse. Le chômage très élevé touche au moins 20% de la population et ses opposants, des libéraux, lui reprochent un exercice rugueux du pouvoir. L'urgence pour son probable successeur, un professeur de 55 ans, sera donc de créer des emplois et de réduire la dépendance du Botswana aux matières premières. S'il est adopté, le texte en cours d'examen à l'Althingi fera de l'Islande le premier pays européen à interdire la circoncision.
L'ablation du prépuce d'un mineur sans raison médicale sera alors passible d'une peine allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement.
Le projet de loi fait un parallèle avec l'excision, déjà interdite dans la plupart des pays européens et en Islande depuis 2005. Il met en avant, je cite, les droits de l'enfant et soutient que l'intervention est en général pratiquée sans anesthésie dans, je cite, des maisons qui ne sont pas stériles et par des leaders religieux qui ne sont pas médecins, entraînant de hauts risques d'infection qui peuvent mener à la mort. Selon un sondage publié le 1er mars, la moitié seulement des Islandais sont favorables à une interdiction qui affectera principalement les communautés juives et musulmanes de l'archipel, soit respectivement environ 250 et 1500 personnes sur une population totale de 336 000.
Kim Jong-un s'est rendu en Chine. Pardon. Son premier.
Et si c'est pas l'une, c'est l'autre.
Son premier voyage depuis sa prise de pouvoir.
Le dirigeant nord-coréen s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping au cours d'une visite qu'il a effectuée à Pékin de dimanche à mercredi. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle évoque une visite non officielle, mais M. Kim a été reçu en grande pompe. Ils ont assisté à un banquet ainsi qu'à un spectacle avec sa femme et visité l'Académie des sciences de Chine.
À Kim Jong-un, c'était sa femme.
Je ne sais même pas quoi répondre. Donc, Kim Jong-un avait une femme. C'est un homme plein de talent. Depuis qu'il a succédé en décembre 2011 à son père, Kim Jong-un a multiplié les gestes agaçants son puissant voisin. 2 ans après son installation au pouvoir, il faisait exécuter son oncle, Yang Son-taek, vu comme le point de contact entre la Chine et le régime nord-coréen. Puis, dans sa détermination à se doter d'une dissuasion effective, il a procédé à 4 essais nucléaires et multiplié les tirs de missiles. Plus de 80 depuis qu'il a pris la direction du pays, dont 44 pour les seules années 2016-2017. En retour, Pékin a, contrairement à ses habitudes, voté les sanctions auxquelles poussaient les États-Unis. Seulement voilà, depuis janvier, le changement d'attitude diplomatique de la Corée du Nord laisse les observateurs pour le moins étonnés. Elle s'est rapprochée de sa voisine du Sud, et d'ici quelques semaines, Kim Jong-un devrait aussi rencontrer Donald Trump, après pourtant 1 an de provocations et d'insultes réciproques via les réseaux sociaux.
Et on passe maintenant au sujet long.